Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Margot Le Ridon, Bertille Bourdon et Luc Alazo. Réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Troisième volet de notre série consacrée à ce que le coronavirus a changé dans notre rapport à la nature et aux opportunités qu'il pourrait offrir pour transformer notre modèle de société. Après avoir parlé de la dimension environnementale des plans de relance de l'économie mondiale, après avoir évoqué les effets de l'effondrement des cours du pétrole et de la nécessité de sortir de sa dépendance, avant de parler demain de notre rapport au monde vivant, place à la question des villes. Elles aussi ont été mises à rude épreuve dans cette crise sanitaire. Est-ce la fin de règne pour les métropoles? C'est la question qu'on se pose ce matin.
Nous avons élaboré différents scénarios pour pouvoir engager le déconfinement. Il s'agit de pouvoir faire face à la crise économique et sanitaire à laquelle nous sommes confrontés. La priorité, ce doit être la sécurité. C'est le message qu'il faudra faire passer à tous ceux qui veulent venir à Madrid, tous les touristes qui veulent revenir. Madrid n'est pas une zone dangereuse. Il n'y aura pas de nouvelles vagues d'épidémie. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut repenser l'utilisation de l'espace urbain, qu'il faut changer les habitudes de mobilité. Nous voulons aller vers une ville où il n'est pas nécessaire de faire de si longs trajets, où tout peut être plus proche.
Repenser l'utilisation de l'espace urbain, disait le maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, il y a quelques jours sur Euronews. Parti de Wuhan en Chine, le Covid s'est répandu en quelques mois sur l'ensemble de la planète, n'épargnant aucun continent. Mais c'est dans les capitales et les grands espaces urbains que le virus a fait le plus de ravages. En effet, au cœur des flux de mobilité hyper connectés, les métropoles se sont retrouvées particulièrement exposées et leurs habitants proportionnellement plus touchés. Pour les Madrilènes, les Londoniens, les New-Yorkais ou encore les Parisiens, le confinement s'est également révélé plus difficile à vivre. Privé de ce qui fait d'ordinaire son attractivité, son dynamisme, la vie sociale, culturelle, le marché du travail, l'offre de transport, eh bien les grandes villes ont révélé leurs failles sur population, inégalité et manque d'espace vert. Leur stratégie d'attractivité, fondée précisément sur l'hyperconcentration des activités et des richesses, n'est-elle pas devenue leur faiblesse ? En tout cas, la crise nous offre une opportunité de repenser le modèle de développement de nos villes, mais aussi leur place dans la mondialisation. Les responsables politiques ont-ils pris la mesure du défi à venir? Comment transformer nos villes? Quelles sont les défaillances révélées par le coronavirus? Comment repenser leur rapport aux campagnes, aux périphéries? À quoi devra ressembler nos métropoles? À quoi devront ressembler nos métropoles du futur pour les rendre plus résistantes et plus résilientes face à de nouvelles crises? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Lise Bourdeau-Lepage. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, professeur à l'université Lyon 3 Jean Moulin et rédactrice en chef adjointe du site Métropolitique. Et vous avez notamment écrit cet ouvrage « Nature en ville, désir et controverse » qui était paru aux éditions Librairie des Territoires. Il en sera évidemment question de la nature en ville. Avec nous également Jacques Ferrier. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes architecte, urbaniste, cofondateur de l'agence Ferrier Marketing Studio et du laboratoire de recherche Sensual City Studio. Alors on va commencer avec une question un peu générale parce qu'on a vu comment cette crise avait poussé les citadins à quitter les grandes villes pour gagner les campagnes, pour ne pas avoir à y vivre le confinement, d'autant que on y avait des services hospitaliers qui étaient assez largement débordés. Et pour ceux qui sont restés, l'expérience a été particulièrement marquante. D'abord positivement, parce que le jaillissement d'un calme, d'un silence soudain a été fort agréable. Mais c'est vrai que dans un deuxième temps, eh bien la perspective d'un retour à la normale, une normale faite de pollution, d'embouteillage, de transport pas toujours efficient, nous a rappelé que eh bien la vie à la ville n'est pas toujours de tout repos et que peut-être même la vie à la campagne serait un nouveau projet assez intéressant. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que la ville telle qu'elle existe aujourd'hui a clairement perdu de son attractivité et ce durablement, que si elle veut la retrouver, il va falloir précisément la réinventer? Ou est-ce que vous pensez que ce désamour est en réalité passager et que ce qui faisait la force de nos métropoles hier va assez rapidement reprendre l'avantage? On va commencer avec vous, Lise Bourdeau-Lepage.
Oui, je ne sais pas si on peut parler de désamour, en fait, de la ville. La ville, on sait qu'elle nous rend libres et puis qu'elle nous permet finalement de satisfaire cet instinct grégaire qu'on a, nos besoins de l'autre. Donc je pourrais pas dire finalement que ça va durer. Effectivement, pendant le confinement, c'était dur, mais est-ce que c'était vraiment induit par la ville? C'est plutôt le fait qu'en ville, on vit dans des petits appartements, surtout dans les grandes métropoles du monde, étant donné que le prix du foncier est très élevé. Donc c'est plus les conditions de vie dans notre logement qui finalement est peut-être, enfin, est la raison finalement de ce désamour. Je ne sais pas si on peut dire ça. En tous les cas, ce qui concerne l'attractivité urbaine et des grandes métropoles, il y a une chose sur laquelle qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que ces métropoles, elles ne sont que l'expression spatiale de la globalisation. Finalement, si on réfléchit un petit peu, la globalisation, c'est le fait qu'on ait la production, la consommation et les échanges qui se font à une échelle planétaire de manière quasi instantanée. Donc ça voudrait dire que ça serait la fin des métropoles si c'était la fin de la globalisation et de tout ce qui a amené cette accélération du phénomène urbain très dense en fait. Voilà, je vais laisser mon collègue prendre la suite.
Et puis vous reprendrez ensuite la parole, ça va tourner évidemment. Jacques Ferrier, votre avis sur cette perte d'attractivité durable ou non? En tout cas, il y a quelque chose qui est assez intéressant qui est apparu avec cet empressement, en tout cas de certains citadins à quitter les grandes villes. C'est une forme de difficulté, d'angoisse quasiment, qui est apparue à habiter précisément ces espaces urbains extrêmement denses. Comme si, au fond, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans un article qui a été publié dans Métropolitique, comme si finalement on n'était pas véritablement fait pour ça, Jacques Ferrier.
Absolument. Moi, ce qui m'a frappé, c'est sinon la perte d'attractivité, mais en tout cas une sorte de grande désillusion, une perte de confiance. C'est-à-dire que ces métropoles, qui sont une forme de métropole possible, ont trahi quand même la confiance des habitants, en ce sens que pour faire vivre ces villes hyper denses, en fait, cela repose sur un système qui est devenu un système extrêmement technique. C'est-à-dire que les villes, aujourd'hui, nous font vivre dans des infrastructures techniques omniprésentes. Et on a bien vu que la crise sanitaire manifeste clairement la fragilité de ce système technique. C'est-à-dire que dès qu'on est empêché, par exemple, de circuler, de se transporter, eh bien, la ville ne fonctionne plus. Et on a, je pense, bien vu que c'était la même problématique qui s'annonçait avec le changement climatique ou avec la raréfaction des ressources ou s'il y avait un jour un problème d'eau potable. Je crois que les habitants des villes ont pris conscience pendant ces mois de confinement qu'ils vivaient dans un système qui les oppressait un tout petit peu au quotidien, mais dont ils attendaient une garantie de sécurité, une garantie de fonctionnement, de confort. Et là, c'est clairement ce qui a mal fonctionné, c'est-à-dire on a bien vu qu'on n'avait pas, comme le dit le maire de Madrid, que dès qu'on ne pouvait plus circuler en tous sens dans cette ville et qu'on se retrouvait affecté à une partie précise d'un quartier, d'un immeuble de logement, et ben là, on n'était pas du tout dans des conditions optimales.
Jacques Ferrier, cette fragilité des villes que vous évoquez, jusqu'où est-ce qu'on peut la corréler à la densité justement des villes? Est-ce qu'une plus une ville est dense, plus elle a montré justement cette fragilité à l'épreuve de cette crise sanitaire? Est-ce que la corrélation n'est pas si évidente?
C'est-à-dire que plus une ville est dense, et plus elle doit, si vous voulez, reposer sur une plus grande sophistication de ses infrastructures, techniques. C'est-à-dire que dès qu'on a moins d'espace naturel, dès qu'on est obligé de faire des déplacements pour aller d'un endroit à l'autre, des déplacements même au sein de son immeuble, parce que ce sont des grands immeubles avec des ascenseurs, etc., qui, pendant la crise sanitaire aussi, ont posé des problèmes. Par exemple, en Chine, à Shanghai, où nous avons une agence, et donc qui est une ville que je connais bien, eh bien, on n'avait plus le droit de prendre l'ascenseur avec ses voisins. Donc, dans une ville dense, bon, là, c'est pas le cas de Paris, mais dans une ville dense comme Shanghai, où vous avez des immeubles de logement qui font 20, 30, 50 étages, dès que vous ne pouvez plus prendre l'ascenseur à plusieurs, on imagine tout de suite la queue, le stress, l'empêchement quotidien qui d'un seul coup est révélé alors que on s'en aperçoit pas d'habitude. Donc il y a quand même vraiment un rapport. Et puis par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que il n'est pas question de dire que la métropole en soi va disparaître, parce que je dirais plutôt que les villes ont créé des problèmes. Il va falloir qu'elles soient résolues à l'échelle des villes, mais il faut être bien conscient que depuis un siècle, disons, on a choisi cette voie ultra fonctionnelle et ultra technique pour faire vivre ensemble les gens dans ces grandes villes. Ce que peut nous enseigner cette crise sanitaire, c'est regarder d'autres façons possibles de vivre dans ces métropoles et donc de les concevoir.
Oui, mais d'autres façons possibles, est-ce que ça veut dire plus des techniques ou moins de techniques? Et là, je me tourne vers vous, Lise Bourdeau-Lepage, parce que c'est évidemment pas la première fois que les grandes villes doivent opérer des révolutions sous l'effet de crise sanitaire. On pense évidemment au 19e siècle où à peu près toutes les grandes villes vont devoir répondre à des impératifs de santé publique, notamment le choléra évidemment, et qu'on va totalement transformer ces espaces. On va développer des réseaux d'égouts, on va développer des réseaux de traitement des eaux usées, collecte des déchets, on va mettre des salles de bain et des toilettes dans les appartements. Bref, j'en passe, vous connaissez ça mieux que moi. Mais compte tenu précisément de cette crise, des nouveaux impératifs sanitaires qui découlent de ce fameux coronavirus, des distances physiques, des gestes barrières, etc., etc. Quelles sont les nouvelles transformations qui vous semblent là les plus prioritaires s'imposer à nous? À quoi ressemble la nouvelle révolution hygiéniste que vont devoir gérer nos villes?
Je voulais juste rebondir sur le fait que la ville, rappeler quand même que la ville, c'est pas, elle est pas autonome en fait. Hein. La ville, c'est le reflet de notre société. Donc tous les maux de la ville et tout ce qu'on n'aime pas dans la ville ou qu'on va lui reprocher, notamment aujourd'hui, ce n'est finalement que ce qu'a généré notre empreinte spatiale de notre société. Donc ça signifie que quand on veut repenser la ville ou se dire à quel défi la ville est confrontée, il s'agit aussi de poser la question de la société. Dans quelle société voulons-nous vivre? Est-ce que nous voulons vivre dans une société qui va préserver les plus vulnérables ou les protéger? Est-ce que nous voulons vivre dans une société où on va préserver l'environnement? Est-ce que nous voulons vivre dans une société où l'individualisme domine? C'est ces questions-là qu'il faut se poser. Et après, elles rejaillissent sur la manière dont nous habitons nos villes ou nos territoires.
Pardon de vous couper, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'inverse, Lise Bourdeau-Lepage? Au fond, est-ce que transformer les villes ne pourrait pas avoir pour effet précisément de renforcer cette conviction que nous avons besoin de changer de modèle de société? Est-ce qu'on ne peut pas retourner la proposition finalement?
Tout à fait, mais qui va changer la ville?
Les urbanistes, les architectes, les responsables politiques.
Et justement, et ces responsables politiques, ils sont bien élus par des individus qui sont les personnes qui mettent leur bulletin de vote dans l'urne. Donc on voit bien que derrière, on a la société civile. Donc ça signifie que si on veut modifier nos villes et justement aller vers ce que nous a enseigné la crise sanitaire, dans l'enquête que j'ai menée sur le confinement et ses effets sur le quotidien, 13 000 habitants de France ont répondu à cette enquête. Il y a 67% de ces individus qui souhaitent qu'on vive autrement. Donc quand on leur pose la question, est-ce que vous pensez que cette crise sanitaire va changer notre manière de faire société ou de vivre ensemble, ils répondent oui à 67%.
Et 68%, mais ce qui ne construit pas une alternative, un projet de société.
Hein. Tout à fait, tout à fait. Et il y en a 68% qui aspirent à ce qu'on prenne plus en compte l'environnement et qui restent persuadés que cette crise sanitaire va le permettre. Ce qui signifie qu'on voit bien que la société dans son ensemble, du moins, demande le changement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, comme on le dit, on aménage autrement nos villes en prenant en compte les aspirations des citadins. Donc ça signifie évidemment, pour répondre à la question maintenant, compte tenu de ce que je viens de dire juste avant, signifierait par exemple de prendre en compte un aménagement qui va replacer le piéton au centre. Ce qu'on nous a appris cette crise, c'est que le quartier est devenu finalement l'eldorado des relations sociales. Les gens en ville, les citadins citadins ont redécouvert leur quartier. Donc c'est là aussi qu'il faut peut-être penser la ville des quartiers avec la possibilité de se déplacer. Donc on l'a vu à vélo, on a l'accent sur le vélo, mais il y a aussi le piéton. Replacer le piéton au centre de la manière d'aménager, prendre en compte aussi ce besoin et ce désir de nature dans le milieu urbain. Donc quelque part, penser une ville des proximités aussi, accès à la nature, mais aussi des proximités des services. Donc on a vu que certains quartiers se retrouvaient un petit peu, dépourvus. Ouais. Donc c'est voilà, mais je pense que pour répondre à cette question, c'est finalement quel est le mouvement social, les personnes qui ont vécu son confinement vont faire en sorte que les choses changent et faire comprendre quelque part aux décideurs, aux acteurs territoriaux qu'ils désirent ce changement et qu'ils pensent que on peut faire la ville autrement.
Voilà. Ça tombe bien, il va y avoir des élections municipales dans quelques semaines, donc ça va être le moment justement d'exprimer ses aspirations. Jacques Ferrier, cette ville des proximités dont parle Lise Bourdeau-Lepage, c'est au fond un peu ce que vous appelez vous aussi. Vous appelez ça, alors vous, le micro-urbanisme. Vous vous dites il faut aller vers ce micro-urbanisme. C'est quoi ce micro-urbanisme ?
Ce micro-urbanisme, c'est une autre approche par rapport à celle qui a été la règle depuis le mouvement moderne. Le mouvement moderne, c'est au début du XXe siècle, citons Le Corbusier comme figure emblématique, qui a produit ce que j'ai appelé un urbanisme de géométrie, c'est-à-dire un urbanisme un peu vu d'avion, c'est-à-dire la ville était essentiellement pensée visuellement en posant de grands tracés, des tracés justement d'infrastructures, de routes, de réseaux, et ensuite pour simplifier, caricaturer un peu, on remplit des cases, on met le quartier de bureau, on met l'espace vert, le bien nommé espace vert, parce que c'est aussi une sorte de coloriage vert sur le plan, le logement, etc. Et cet urbanisme de géométrie, aujourd'hui, après avoir été, disons, photocopié à grande échelle dans tous les pays du monde, avec des villes qui font 10 millions, Wuhan, c'est 12 millions d'habitants, Paris, le Grand Paris, c'est 14 millions, Shanghai, c'est 24 millions. Ce sont évidemment des échelles qui n'étaient pas celles du début du XXe siècle. Et cet urbanisme de géométrie a produit des villes sans qualité, un peu génériques, et a produit effectivement un urbanisme qui n'est plus appropriable et qui n'est plus à l'échelle que nous a réimposé le confinement. Donc ça, c'est le bon côté, ce que disait Lise à l'instant. C'est le bon côté. Les gens se sont retrouvés confrontés à un voisinage dont on les privait d'une certaine façon, dans une obligation constante de se déplacer d'une case à l'autre. Donc nous, on appelle un micro-urbanisme qui est celui un peu de la réconciliation de l'échelle du piéton, du parcours, mais qui est aussi la réconciliation du corps avec la ville, c'est-à-dire pas uniquement cette composition visuelle, mais aussi l'expression de tous les sens, c'est-à-dire la qualité de l'air, la qualité des sons, des bruits dans la ville, la présence de la nature, le passage du climat, qui sont des choses qui étaient latentes. Moi, je crois que pourquoi il y a eu une réaction finalement aussi exacerbée par rapport à cette crise sanitaire, c'est qu'une fois encore, elle a manifesté une remise en question qui était déjà là. Et je le vois bien, moi je suis assez optimiste, je le vois bien avec les élus avec qui nous travaillons, je le vois de plus en plus avec certains grands opérateurs, promoteurs, constructeurs, qui fabriquent effectivement la ville. On le voit sur les lieux de travail, sur les espaces de travail, je pense qu'on va le voir aussi sur les espaces sur les bâtiments de logement. Il y a quand même un épuisement de la façon de faire la ville, une fois encore, qui prendrait le diktat de l'efficacité, de la commercialité et de la fonctionnalité comme l'alpha et l'oméga.
Et vous pensez Jacques Ferrier, pardon de vous couper, que le Covid va justement créer une rupture dans tout cela et qu'on va vraiment basculer désormais dans un autre modèle? Alors nous, évidemment, on est à Paris, donc on pense à cette alliance qui vient d'être passée entre Anne Hidalgo et Auvert, qui visiblement va produire quelque chose de cet ordre-là, puisque l'ambition, c'est de faire une ville autrement. Est-ce que vous pensez que ça révèle quelque chose de plus global? Quand vous regardez les villes ailleurs, vous connaissez particulièrement bien l'Asie, vous avez le sentiment que cette crise sanitaire, ça va être le catalyseur de cette transformation que vous appelez, vous, les architectes, les urbanistes, les géographes de vos voeux depuis si longtemps? On y est, c'est là maintenant le moment de rupture.
Je crois que le mot, c'est ça, c'est pas
La crise n'a pas créé la rupture, mais elle a bien révélé la rupture. Ça, c'est évident. Et une fois encore, une rupture qui aurait été finalement équivalente si on avait été dans un stress d'eau potable, si on est dans un épisode de stress de chaleur avec les îlots de chaleur ou d'énergie. Donc, elle a révélé la rupture. Après, effectivement, sera-t-elle le catalyseur de nouvelles façons de faire, en sachant que les conditions urbaines sont très différentes d'une ville à l'autre, et que, comme Lise le disait aussi, la dimension sociale est très importante. Pour dire un mot de Shanghai, Shanghai, ville asiatique, ville chinoise, ville qui depuis toujours est dans la culture d'un collectif qui prime sur l'individu. Donc quand vous parlez d'une métropole, quand vous avez une société où le collectif est d'abord la base, il est clair que ça facilite et ça aide, par exemple, le système à Shanghai, il y a le système là, qu'on appelle en France là, l'informatique, du tracking, qui pose de grands débats, et c'est légitime, dans un pays comme la France, qui n'a posé aucune question dans une ville comme Shanghai. Donc chacun sur son smartphone à Shanghai a la pastille verte, orange ou rouge, qui lui permet d'accéder librement dans les restaurants, dans les lieux publics, etc. Donc, là, on voit bien qu'il y a une espèce de ville aussi, on parle beaucoup, il y a un changement de paradigme technique avec la ville, il y a une espèce de ville sans contact qui se met en place, d'application de ville. Est-ce que c'est ça que l'on appelle de nos voeux, en disant, ben, pour vivre ensemble dans des crises sanitaires, dans des crises climatiques, on va remettre, disons, les clés de notre liberté urbaine à des logiciels, ou est-ce qu'on veut effectivement repenser nos quartiers, repenser l'immeuble collectif pour qu'il soit vraiment partageur et qu'il crée vraiment une vie de communauté, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui dans les projets neufs de logement.
Ouais, mais alors, le gros problème dans ce que vous dites, Jacques Ferrier, c'est que le « on » que vous utilisez cache en réalité des divergences fondamentales. Lise Bourdeau-Lepage, Jacques Ferrier nous dit que le Covid pourrait être effectivement ce catalyseur qui nous propulserait vers une nouvelle ère urbanistique. Mais il faut pas rêver. Mettre en place de nouveaux espaces urbains, chasser les voitures des villes, mettre en place des pistes cyclables et chasser, pour le coup, le piéton de l'espace public. Tout ça provoque des résistances. Et précisément, ce « on » de Jacques Ferrier, il est plein de fractures en réalité. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on est là à l'aube d'une nouvelle ère urbanistique, ou est-ce que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on souhaite de mettre en œuvre ces transformations ?
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que disait Jacques. Je pense que cette crise, elle est un révélateur des mots de nos métropoles, et elle révèle aussi les aspirations des citadins. On peut voir que depuis une dizaine d'années, et puis même ces cinq dernières années, les collectivités territoriales étaient conscientes que les citadins désiraient une ville autrement, avec évidemment la possibilité de se déplacer, un environnement sain et sans nuisance, des services de santé, ce qu'on a pu observer à Lyon sur une enquête qu'on a menée d'assez grande envergure. Donc du coup, là, c'est vrai que cette crise sanitaire, elle met comme si elle mettait un gros zoom sur des éléments qui étaient là et qui étaient en train d'émerger et dont certaines collectivités territoriales se saisissaient. Par exemple, pour traiter l'effet de l'îlot de chaleur urbain, la métropole de Lyon a mis en place un certain nombre d'opérations. Et elle essaye aussi de répondre à ce désir de nature des citadins, par exemple, en essayant de leur donner la possibilité de végétaliser leur ville. Donc là, c'est un mouvement qui peut partir du bas avec des changements qui sont faits par les citadins. Après, la question évidemment que vous soulevez, c'est que qui est extrêmement intéressante et à laquelle moi je ne pourrais pas répondre par oui ou par non, du moins en tant que chercheur. Je crois que c'est ce changement, les changements urbanistiques ou plutôt aller vers une ville plus sensible qui va prendre en compte l'humain et l'environnement, hein. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire sur le long terme, mais dont il faut un détonateur, et peut-être que cette crise sanitaire est le détonateur qui va permettre de mettre en place un certain nombre d'opérations. Des résistances, il y en aura toujours, des résistances au changement, c'est finalement de la nature humaine. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la ville de demain, elle est à peu près à 70% déjà la ville d'aujourd'hui. Mmh. Donc il faut apprendre à transformer nos espaces urbains, nos bâtiments, pour les adapter à un nouveau contexte environnemental et sociétal. Voilà. Donc des résistances, oui, la ville, quand on parle de densité urbaine, c'est pas un choix, c'est les mécanismes de marché qui font que dans ces grandes métropoles, on a une rareté du sol, du foncier, qui font que c'est certains types d'activités qui peuvent se saisir de ces terres, du sol, et qui vont finalement essayer de le rentabiliser le plus. Donc en fait, il y a des mécanismes extrêmement importants qui sont les économies d'agglomération qu'on va essayer de faire et qui sont exacerbées dans ces grandes métropoles. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a des résistances, elles sont peut-être un peu sociétales, quoique, mais elles sont surtout économiques. Et c'est peut-être là que le changement doit intervenir, en fait, de faire autrement. Autrement, finalement, mener nos activités économiques autrement, ou prendre en compte la question environnementale et la question des sociales, peut-être dans la manière de mener notre activité économique. C'est peut-être là que les résistances se situent le plus. Je pense que avoir un environnement beaucoup plus amène et beaucoup plus propice pour notre santé, à peu près toutes les personnes du monde, une grande partie, vont répondre oui, évidemment, je le veux. Donc, ouais. Voilà.
Jacques Ferrier, regardons peut-être ce qui est sûrement l'un des plus grands, voire le plus grand défi pour nos métropoles, la question de la mobilité. On voit bien là, Jacques Ferrier, le casse-tête qui est face à nous pour faire repartir les transports en commun dans lesquels il faut respecter la distanciation physique, il faut respecter les gestes barrières dans des transports qui sont déjà congestionnés. On voit mal comment en réalité on peut répondre aux défis sans totalement changer les principes, la philosophie de cette mobilité urbaine. Alors évidemment, il y a des alternatives. On a évoqué la question du vélo qui s'est imposée visiblement de facto très très vite. Il est probable que les politiques vont s'en saisir pour favoriser l'émergence de nouvelles pistes cyclables. On le voit ici en France, avec par exemple une ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a invité les élus à pérenniser les pistes temporaires. Donc on voit bien qu'on va dans ce sens-là, mais c'est pas seulement vrai ici. On regarde par exemple du côté de Bogota, on a juste sur le mois de mars 80 km de pistes cyclables qui ont été mises en place pour répondre justement à ce défi de la mobilité en période de coronavirus. Mais on se demande si cette solution peut suffire, tant le défi est colossal. Comment, Jacques Ferrier, vous voyez les choses? Comment les métropoles doivent se transformer pour relever ce défi de la mobilité? Quelle piste s'offre à nous, et pas seulement cyclable, Jacques Ferrier?
Oui, si je prends l'exemple du Grand Paris, un exemple que je connais bien parce que nous sommes les architectes conseils pour le Grand Paris Express et les 70 nouvelles gares, on voit bien que là, le politique a l'outil en main, c'est-à-dire pour la première fois des lignes de métro qui ne vont pas être radiales par rapport au centre de Paris, mais qui vont faire des boucles autour du Paris intramuros. Donc là, le politique, dans les 10 ans qui viennent, a le choix, soit de continuer à faire une ville hyper centrée, soit de faire une ville archipel, une métropole qui va être multicentre, et où autour de chaque nouvelle gare du Grand Paris Express, on va justement, en tirant les leçons de ce qui s'est passé, faire ce micro-urbanisme qui fait qu'on va trouver les ressources d'éducation, de convivialité, de travail, de logement, qui vont permettre d'avoir autant de pôles d'attractivité que de gares, pour simplifier. Ça, c'est un vrai choix. Quand on met la tour triangle, la future tour triangle, à l'intérieur du périphérique, quand on met le ministère de la Défense à l'intérieur du périphérique, quand on met le nouveau palais de justice de Paris à l'intérieur du périphérique, ça va évidemment pas du tout dans le sens de l'histoire.
Donc ça veut dire, Jacques Ferrier, que les responsables politiques n'ont pas compris les transformations que l'on doit opérer quand même.
Ils ne l'ont pas compris, ils ne se donnent pas les moyens en tout cas, parce qu'il y a toujours des bonnes raisons. Mais c'est absurde de continuer à créer de la densité, à créer du mouvement, si je prends les trois exemples que je viens de citer, alors qu'on a un territoire du Grand Paris qui non seulement est beaucoup moins dense, dès qu'on passe le périphérique, mais qui a besoin en plus de symboles, parce que la ville, le plaisir de vivre en ville, c'est aussi l'image mentale, c'est la fierté d'appartenir à telle ou telle commune de la métropole. Et ça, on le retrouve dans le monde entier. Si effectivement, toutes les cartes postales, on continue à les accumuler dans une ville hyper centrée qui en est déjà saturée et on en prive les 10 millions d'habitants qui vivent autour, ça ne va clairement pas dans le bon sens. Là, avec le Grand Paris Express, on a l'outil pour faire une ville, une fois encore, qui soit une ville archipel, qui soit pleine de centres d'intérêt dans 10 ou 15 ans et qui permettrait de résoudre cette question que vous posez, une nouvelle mobilité, d'une mobilité plus subtile, plus nuancée, plus intelligente que celle qui consiste à faire des allers-retours sans cesse entre un hypercentre et une périphérie. Les pistes cyclables, c'est la même chose à Shanghai. Vous citez Bogota, on peut évidemment citer Paris. On a vu que quand on veut, on peut. C'est-à-dire à Paris, la rue de Rivoli, voilà, du jour au lendemain, elle devient cyclable, ça marche très bien. Donc on peut s'appuyer aussi sur cette ambiguïté entre le temporaire qui va durer un peu. Il y a là quand même des pistes très positives que cette crise est en train de montrer. Et juste pour rebondir sur ce que disait Lise sur l'économie, je prendrai un exemple très simple, le balcon. Il y a un avant et un après. Si je dis à un de mes clients, il y a 6 mois, je dis on va mettre des balcons partout sur l'immeuble de logement, il va me dire c'est cher, c'est compliqué techniquement, l'accessibilité, etc. Plein d'obstacles. Je crois qu'aujourd'hui...
Maintenant tout le monde en veut, donc c'est plus un problème. C'est ça.
Ben voilà, c'est là où le côté économie, c'est-à-dire si un appartement avec balcon va se vendre mieux, eh ben finalement l'investisseur, le promoteur, l'opérateur... Voilà, donc il y a le politique, il y a l'outil commercial, il faut faire feu de tout bois pour effectivement faire changer les choses.
Lise Bourdeau-Lepage, et puis ensuite on va accueillir une nouvelle invitée pour prendre la direction de New York. Lise Bourdeau-Lepage, je pense que vous êtes d'accord avec Jacques Ferrier que finalement, pour répondre à ce défi de la mobilité urbaine de demain, il est impératif de faire émerger cette ville-archipel, je reprends l'expression de Jacques Ferrier, c'est-à-dire avec plein de petits centres un peu partout et pas un seul hypercentre, sauf que pour le moment, en tout cas, on n'est pas dans cette situation et on a des métropoles qui sont, pas toutes, mais très centralisées. Alors comment on fait ? On attend gentiment que, effectivement, nos métropoles se décentralisent et qu'on voit apparaître cette ville-archipel. On attend ? Lise Bourdeau-Lepage. Je provoque un peu.
Bah bien sûr, oui, c'est ce que je vois. Non, je crois pas qu'on peut attendre. Là, la seule chose, c'est qu'il faut prendre la mesure de ce que peut faire le politique. Donc ça, c'est plutôt une décision de politique, en fait. Si on laisse faire comme ça, si on laisse faire le marché, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est un renforcement, comme le disait Jacques, du processus de centralité, le centre étant attractif. Donc du coup, peut-être que oui, il faut penser autrement et produire une ville qui soit celle où on aurait différents pôles d'activité et peut-être mixer, comme on le disait, le résidentiel et l'activité d'emploi, en fait. La question qui se pose, c'est dans quelle mesure et quelle est la marge de manœuvre de nos politiques pour pouvoir mener ce projet à terme. Je pense que Jacques a tout à fait raison quand il dit que le Grand Paris est une opportunité à saisir pour justement essayer de faire en sorte que on ait une concentration moins importante. Après, cette concentration, elle est induite par les avantages à l'agglomération. Donc, du coup, il faut essayer peut-être de s'appuyer sur l'émergence de ce qu'on nomme les facteurs soft d'attractivité. Donc, les facteurs soft d'attractivité, c'est les aménités environnementales et sociales que que procure un territoire. Et on voit que de plus en plus de personnes sont sensibles à ces aménités. Et du coup, les entreprises, maintenant, se doivent finalement de proposer un environnement qui soit plus amène pour leurs travailleurs. Donc on a aujourd'hui une tendance à avoir des entreprises qui vont peut-être plus suivre leurs employés que l'inverse dans les années, on va dire, 70-80. L'exemple, par exemple, de Bordeaux est assez emblématique de ce point de vue-là. Donc peut-être que retravailler sur ces facteurs soft de l'attractivité et les prendre mieux en compte dans la politique publique serait un des moyens finalement de parvenir à avoir une ville ou une métropole qui soit plus, sensible. Je ne sais plus quel est le terme qu'utilisait Jacques.
Oui, je crois que c'était justement le terme sensible, Lisbourg de Lepage. On est avec vous et avec Jacques Ferrier dans cette série consacrée à l'Anthropocène, le virus de la dernière chance. On regarde ce matin ce que ce virus pourrait nous offrir comme opportunité de transformation de nos grandes métropoles et on va prendre la direction de New York.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Quand j'ai entendu parler de ce site qui faisait des dépistages pour tous, que vous ayez des symptômes ou non, je suis venu depuis le Bronx jusqu'ici pour être dépisté. Ça aide la communauté ici, particulièrement à Harlem, car nous avons beaucoup de gens ici qui ont besoin d'être dépistés. Beaucoup de gens ici n'ont pas d'assurance santé, donc c'est bien d'avoir un lieu où on peut venir se faire dépister.
Que ce centre de dépistage soit ouvert, c'est une bénédiction. Nous en avions besoin. Et nous avons besoin de plus de centres dans cette communauté, pas uniquement de celui-ci.
Voilà. Un habitant du Bronx venu se faire dépister du côté de Harlem, aussi une habitante du quartier de Harlem, témoignage recueilli par l'AFP, alors que les villes américaines sont le théâtre de tensions très vives sur fond de fracture raciale après la mort de George Floyd, mort sous le genou d'un policier. On va regarder comment l'une des métropoles les plus touchées de la planète par le Covid, à savoir New York, épicentre de la pandémie aux États-Unis, est touchée d'ailleurs cette nuit par une vague de pillage. Et bien comment cette ville a répondu à la crise sanitaire et ce qu'elle a révélé justement des injustices sociales et raciales qui la traversent. Bon, on va retrouver en direct de New York Magda Maoui. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup
de m'accueillir dans votre émission.
Eh ben, merci d'y participer. Vous êtes doctorante en urbanisme à l'Université de Columbia et rattachée à l'Université Paris Diderot. On est un peu rattrapé par l'actualité, hein, Magda Maoui, parce que alors que la ville était déjà mobilisée dans la lutte contre le coronavirus, elle doit aussi faire face désormais à cette vague de pillage qui est venue se greffer sur les mobilisations de protestation contre la mort de George Floyd. Cette nuit, malgré le couvre-feu et alors que le confinement est en théorie toujours en vigueur, la ville a été le théâtre de scènes de pillage très importantes. Comment vous interprétez la chose? Et jusqu'où est-ce que finalement cette fièvre est aussi à relier à la crise sanitaire que vivent les États-Unis et en particulier la ville de New York depuis quelques semaines, Magda Maoui?
Oui, alors la ville de New York, c'est une ville qui est particulièrement touchée hein, par la crise. On compte plus de 200 000 cas de Covid, presque 22 000 décès depuis le début de la pandémie. Des milliers de commerces qui ont fermé, environ 900 000 personnes qui ont perdu leur emploi, avec certains quartiers, certains groupes sociaux qui sont particulièrement plus durement impactés que d'autres. Alors New York, elle a déjà géré des crises profondes. Je pense notamment aux attaques du 11 septembre en 2001, à la récession économique de 2008, à l'ouragan Sandy aussi en 2012. Et tout comme pour chacun en fait de ces épisodes de crise, elle se préparait à proposer une série de mesures qui seraient initiées à plusieurs échelons de gouvernance pour essayer de relancer la ville à partir de la semaine prochaine. Alors vous le savez, cette pandémie conjuguée à l'assassinat de George Floyd par un policier à Minneapolis, ça a souligné encore plus les inégalités qui structurent en fait cette société, localement et puis à l'échelle du pays, et l'urgence en fait d'avoir un plan de relance qui traite de cette question.
Alors, on va aborder ce plan de relance qui est évidemment très important, mais juste parce que vous travaillez sur les arrondissements particuliers du Bronx, de Harlem, du Queens, qui sont des quartiers qui abritent des populations réputées fragiles socialement. Dans quelle mesure est-ce que justement ils ont été particulièrement concernés par cette crise du Covid? Et évidemment, on est en pleine fièvre raciale aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire que les Noirs américains y ont été tristement plus concernés également?
Tout à fait, oui. Alors, on l'a entendu hein, depuis le début du mois de mars. Penser cette crise, c'est rappeler combien tous les territoires, en fait, ils ne sont pas égaux face au virus. C'est rappeler aussi que ces maux soudains auxquels on est confronté, en fait, ils font surgir des inégalités qui sont bien vieilles et qui ne risquent pas de s'effacer tout de suite. Les États-Unis, c'est un peu un miroir grossissant de ce qui se passe chez nous. Comme en France, les chercheurs ont déjà mis en évidence les liens entre niveau socio-économique, lieu de résidence, vulnérabilité face au Covid. Je pense par exemple aussi aux propos de certains élus, comme Alexandria Ocasio-Cortez. Je le rappelle, elle est élue au Congrès américain. Elle est représentante aussi de la 14e circonscription de l'État de New York. C'est un territoire grosso modo qui couvre deux arrondissements de la ville, l'est du Bronx, le nord du Queens. Et en fait, la moitié de la population de ces territoires-là, elle est d'origine hispanique. Aujourd'hui, ces territoires, c'est les territoires les plus touchés du pays. Elle utilise justement ces mots pour parler un peu de l'impact lourd de la crise. Elle dit que ces problèmes, ils ne sont pas nouveaux et que ce virus, il jette vraiment de l'huile sur un feu qui brûle depuis longtemps. Alors, pour rappel, pour donner des petits chiffres, ces territoires-là, donc dans l'est du Bronx et le nord du Queens, c'est 19 504 coronavirus début mai, avec un chiffre donc supérieur à celui de tout Manhattan, alors que le territoire, il compte 1 million d'habitants en moins. Et en fait, si on zoome un peu plus ces deux quartiers qu'elle administre et qui portent les noms funestes de Corona et North Corona, ils comptaient plus de cas que pour n'importe quel autre code postal, en fait, dans le pays. Donc, les habitants de ces quartiers, ils sont principalement issus de minorités. Ils occupent aussi, pour la plupart, des emplois de caissiers, aides à domicile, aides-soignants, agents de service dans les hôpitaux, éboueurs, livreurs, postiers. Ça explique un peu cette vulnérabilité-là. Et, et je le rappelle, le constat, il n'est pas spécifique au district du Queens. Hein, la population hispanique de New York, elle représente, par exemple, 29% de la population totale pour 34% des décès dus au Covid. Et la population noire de New York, elle représente 22% de la population totale pour 28% des décès. Donc on est un peu sur une surreprésentation. Vous conjuguez à ça le fait que le 25 mai, George Floyd meurt après avoir été menotté, visage à terre, après qu'un policier se soit agenouillé sur son cou pendant plusieurs minutes. Avant George Floyd, on a eu deux autres événements qui ont vraiment choqué la population. Dans un premier temps, la vidéo de l'assassinat d'Ahmaud Arbery le 23 février dernier qui s'est mise à circuler. Il a été assassiné en Géorgie, suivi de l'assassinat par des officiers de police dans le Kentucky de Breonna Taylor le 13 mars dernier, qui se rajoute à une liste.
Oui, il y a malheureusement une liste qui est très très longue et qui explique la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les États-Unis. Et d'ailleurs, j'indique aux auditeurs qu'on va avoir l'occasion, là, dans les jours qui viennent, dans Culture Monde, d'évoquer justement cette fracture raciale. Mais pour revenir, Magda Maoui, si vous le voulez bien, à notre sujet qui est celui de la ville. J'imagine qu'il doit y avoir aujourd'hui un certain nombre de réflexions à New York sur des évolutions à enclencher pour changer le modèle urbain à New York. Parce que c'est aussi la forme de cette ville qui produit tout cela. Vous parliez tout à l'heure du plan de relance, parce qu'effectivement, il y a quelques jours, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a appelé à lancer des grands chantiers d'infrastructures, alors au niveau du pays, mais aussi au niveau de la ville de New York. Il a parlé de la construction d'une liaison ferroviaire entre le centre de New York et ses aéroports, du prolongement d'une ligne de métro, du développement des énergies renouvelables. Est-ce que tout cela vous semble aller dans le bon sens? Et ce sera ma dernière question, je vous demanderai s'il vous plaît une réponse relativement courte. Est-ce que ces grands chantiers sont précisément de nature à propulser la ville dans le monde d'après? Magda Maoui.
Oui, alors tout à fait, il y a eu un plan de relance qui devait être relancé à partir mis en place à partir de la semaine prochaine. L'idée, c'était vraiment de conjuguer un accès disponible pour tous, donc aux tests, pour vérifier que les gens ne contractent pas le virus, pour pouvoir réouvrir la ville, pour relancer l'économie, du coup, à partir de la semaine prochaine. Ça aurait permis à 400 000 personnes qui sont actuellement sans emploi de pouvoir retravailler, par exemple, dans des restaurants qui seraient réouverts en occupant des places de parking, en occupant des rues qui seraient piétonnisées. Ça aurait permis de réouvrir des magasins dits non essentiels, de relancer des chantiers de construction. Ça, c'est un point très important dans la ville, puisque tout est au ralenti, de réouvrir certaines usines pour vraiment essayer de relancer l'économie. Et on le voit avec les manifestations actuelles, le fait que tout soit au ralenti, que là, on soit reparti un peu... Là, on est à l'arrêt total, puisque actuellement, il y a un couvre-feu qui a été mis en place à partir de lundi. On est sur du couvre-feu de 20h. On attend d'un moment à l'autre que la garde nationale soit du coup déployée dans la ville. Et à mon sens... Je pense que tout plan qui réfléchirait en fait à l'après-Covid, à une réflexion sur une durabilité environnementale, sur une qualité de vie en milieu urbain, qui n'intègre pas le volet injustice sociale, ça va pas fonctionner. Et là, Andrew Cuomo, le gouverneur et le maire de Ville de Blasio, ils sont en train de voir, voilà, ils apprennent cette leçon-là malgré eux, quoi.
Ouais, New York, c'est vraiment la métropole qui peut être le plus, en tout cas une métropole qui est en capacité d'enclencher de la transformation. Hein. Il faut bien voir que quand on va à New York, c'est une ville qui est perpétuellement en chantier. La transformation, c'est quasiment dans l'ADN de la ville. Donc il faudra évidemment la regarder en particulier. Merci Magda Magui d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes doctorante en urbanisme à l'Université de Columbia et rattachée à l'Université Paris Diderot. Je vous remercie doublement parce que vous étiez en direct et donc il est très tôt chez vous.
En réalité, la faune et la flore de la lagune de Venise sont beaucoup plus diversifiées et intéressantes que ce que l'on pourrait penser. Mais comme les eaux en général sont troubles, on ne prête pas attention à tous ces organismes. Ce qui a diminué dans la ville, ce n'est pas seulement le trafic et la pollution produite par les bateaux. C'est aussi le bruit qui est une autre forme de pollution et perturbe de nombreux organismes vivants dans la lagune.
Voilà, une ville très différente de celle dont on parlait à l'instant. Vous avez reconnu évidemment Venise, quoique le Covid a révélé une Venise qu'on ne connaissait plus, une ville sans touristes dont les eaux avaient retrouvé leur transparence grâce à un trafic dans ses canaux quasiment à l'arrêt. Bref, une ville qui méritait à nouveau son surnom de Sérénissime. Alors si on peut évidemment pas se réjouir des raisons de cet état exceptionnel, c'est en revanche une occasion de nous interroger sur une mise en tourisme plus responsable, plus raisonnée de la cité des Doges. On va retrouver tout de suite à Venise Chiara Baratucci, qui est architecte, urbaniste, professeur à l'université de Venise et enseignante à l'école polytechnique de Milan, qui connaît très bien Chiara Baratucci, Venise, puisque vous y habitez. Est-ce que vous avez le sentiment que, justement, on a pris vraiment conscience là à Venise, qu'il faut en finir avec ce modèle de tourisme de masse, ou est-ce que vous craignez que d'ici quelques semaines, quelques mois, tout redevienne comme avant?
Juste hier, à Venise, dans l'après-midi, il y a eu une manifestation avec des milliers d'habitants qui ont justement demandé un changement par rapport à cette question du tourisme. Donc, ils ont protesté parce qu'ils veulent un tourisme réglé, plus d'attention aux droits des résidents. Donc, ils ont manifesté pas dans les places, dans les rues de Venise, parce que il soutient qu'on ne peut plus retourner à la situation du tourisme sauvage de l'avant coronavirus. Donc, il demande la diminution et la réglementation des flux touristiques pour une ville plus vivable. Il faut souligner que Venise a 30 millions de touristes par an, donc une moyenne de plus de 80 000 par jour. Donc, c'est vraiment une situation très difficile.
Mais Chiara Baratucci, juste un tout petit mot, Chiara Baratucci. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations et de mobilisations du côté de Venise et depuis longtemps contre les paquebots, pour le maintien du marché de Rialto, pour une autre politique du logement. Mais est-ce que cette conscience, cette mobilisation aujourd'hui, celle dont vous nous parliez, celle qui a eu lieu hier, est-ce qu'elle va au-delà des cercles traditionnels de mobilisation? Est-ce que vous avez le sentiment que là, on a avancé d'une certaine manière?
Oui, parce que de toute façon, c'était une réunion de plusieurs collectifs et en même temps, on a vraiment pris conscience que cet arrêt des activités économiques, de tourisme de masse, le confinement a apporté des améliorations environnementales, mais même à la ville, qui a été plus vivable, on peut dire même plus respirable. Et donc, on a eu des conséquences positives, si vous voulez, sur l'environnement. Et cet événement pourrait vraiment être l'occasion pour réfléchir à un futur différent pour la ville. Donc, c'est différent pour ça, parce que c'est la première fois qu'on s'est rendu compte qu'il est suffisant d'avoir 2 mois d'arrêt pour avoir les eaux des canaux, comme vous disiez, transparentes, pleines de poissons, l'air était plus respirable, parce que Venise est une des villes les plus polluées d'Italie. Mais le problème, c'est que même si les habitants protestent, même s'ils ont fait écouter à nouveau leur voix, l'administration publique n'a pas su saisir cette occasion pour penser à une nouvelle vision à moyen et long terme. Au moins, il n'a pas fait ça jusqu'à ce moment. Donc, les élus ne semblent pas s'être arrêtés pour réfléchir à ces effets positifs. Donc, malgré ces pressions, ces protestes, l'administration publique semble plutôt attendre que tout revienne comme avant. Vous devez comprendre que le tourisme apporte de la richesse et c'est donc l'aspect qui est plus considéré qui est considérée la plus importante par les élus surtout. Et cette nouvelle vision à moyen et long terme, des nouvelles stratégies qu'il faut concrètement mettre en place, pour le moment, on ne les voit pas. Mais si on veut arriver à passer d'un tourisme de masse à un tourisme durable, on devrait le faire. Et de toute façon, il y a des actions concrètes qu'on pourrait faire. Par exemple,
Chiara Baratucci, oui. Vous me parlez des élus. Si on regarde par exemple le maire de Venise, qui s'appelle Luigi Brugnaro, il dit depuis longtemps qu'il veut miser sur un tourisme plus qualitatif, moins quantitatif. Est-ce que cet homme-là, par exemple, aujourd'hui, vous semble faire défaut justement dans ce nécessaire virage vers un tourisme plus durable? Il vous semble qu'il n'a pas parler de façon assez claire pour justement engager cette transformation?
Mais souvent, ce n'est pas une question de parler, parce que toutefois, au-delà des discours officiels, il a des positions et des actions très contradictoires. Par exemple, d'une part, il installe des tourniquets aux entrées de la ville pour limiter le nombre des touristes pendant les périodes les plus intenses de flux touristiques comme le carnaval, la régate historique ou même la fête du Rédentor. D'autre part, au cours des 3 dernières années, il a délivré plus de 9000 licences pour faire louer des lits pour les touristes sur la terre ferme, ce qui a permis la possibilité pour beaucoup de touristes de passer la nuit à bas prix sur la terre ferme et de se rendre à Venise sans trésorerie pendant la journée. Donc, il y a 3 ans, il était seulement 7500 lits pour touristes. Dans les 3 dernières années, il a délivré 9000 licences en plus. Donc, la terre ferme est en train de devenir une ville dortoir pour les touristes se rendant à Venise pendant la journée. Et Venise est moins et moins une véritable ville. Et c'est un musée en plein air avec moins et moins d'habitants résidents. Vous savez qu'en 1950, on avait 185 000 habitants résidents à Venise et aujourd'hui, nous sommes moins de 53 000.
Oui, le moindre appartement, la moindre chambre est mise en location et notamment via la plateforme Airbnb, à tel point qu'effectivement, il y a beaucoup de Vénitiens qui ont totalement quitté la ville. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup, Chiara Baratucci? Est-ce qu'il faut interdire les locations? Est-ce qu'il faut interdire Airbnb, par exemple? C'est une chose qu'on évoque souvent chez les Vénitiens.
Écoutez, il y a beaucoup d'actions. La réglementation d'Airbnb, mais la réglementation même pour les propriétaires privés des maisons à Venise, à ce moment, n'importe qui peut louer sa propre maison. Par exemple, je pense à l'Allemagne, je pense à Berlin, c'est-à-dire que l'Allemagne, à Berlin, on peut pas, les propriétaires privés ne peuvent pas louer leur maison pour de brèves périodes. Donc, seulement cette action de réglementation tout simple pourrait faire baisser le nombre d'appartements qui sont loués aujourd'hui, pourrait aider beaucoup de gens à ne pas quitter Venise parce qu'ils ne trouvent pas des loyers pour eux, parce qu'ils sont très très chers, ils ne sont que pour les touristes, alors qu'il y a l'exode de la part des résidents et ces maisons qui sont de plus en plus loué aux touristes, alors que Berlin a su faire une loi qui est capable de limiter les vagues excessives de touristes, de limiter le nombre de maisons et de lits à louer. Mais comme je vous disais, c'est pas quelque chose qu'on est en train de faire ici, ici à Venise.
On n'en prend pas encore le chemin. Chiara Baratucci, vous parlez de loi, justement. Peut-être un mot sur la question des paquebots, parce que ça fait des mois et des années qu'il y a des associations à Venise qui militent contre la présence de ces gigantesques paquebots qui viennent accoster à quelques encablures du centre-ville. Et d'ailleurs, l'année dernière, ces images de cet énorme paquebot qui percutait le quai vénitien avaient fait le tour du monde. Et pourtant, en théorie, il y a un décret qui interdit les paquebots dans la lagune. Oui. C'est une décision qui a été prise après le naufrage du Costa Concordia, qui s'était échoué en 2012, juste en face des côtes toscanes. Et pourtant, aujourd'hui, ces monstres des mers, ils continuent d'y naviguer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un décret, et pourtant, il n'est pas appliqué.
Alors, il y a un décret de 2012, justement, qui interdit le passage des gros navires. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, à ce moment, une solution alternative. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de fois de la nécessité de déplacer le port de l'intérieur de la lagune à l'extérieur de la lagune. Parce qu'aujourd'hui, le port est à l'intérieur de la lagune. Donc, les grands navires de croisière, les pétroliers traversent les canaux de la ville et poursuivent leur grave action d'érosion des fondations de la ville, des berges, des bases, des bâtiments, mais même de pollution de l'air et de l'eau. Donc, ça aussi, c'est un discours qui est dans l'air depuis je ne sais pas combien d'années, mais en même temps, on ne fait rien concrètement pour déplacer le port à l'intérieur, à l'extérieur de la lagune.
Mais pourtant là aussi, pardon de vous couper, Chiara Baratucci, mais pourtant là aussi, des décisions politiques ont été prises. En 2017, quand il y a cette réunion du Comitatone, qui est cette entité qui a été créée dans les années 80 pour gérer les affaires de Venise, il y a des institutions nationales, il y a des institutions régionales, on essaye de gérer un peu les problèmes de Venise. Et notamment, on s'est attaqué à cette question de grand plan de développement pour les bateaux. À l'époque, on avait décidé que les bateaux de plus de 130 000 tonnes ne devaient plus passer par le canal et devaient emprunter un itinéraire plus au sud. On avait promis la construction d'un nouveau terminal pour un coût de 70 millions d'euros. Mais tout cela n'a jamais été appliqué. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme conclusion de tout ça, Chiara Baratucci? Est-ce que finalement, le problème de Venise, c'est pas avant tout, et je vous laisse répondre, un problème de gouvernance? Comme si finalement, personne n'avait le pouvoir de changer quoi que ce soit parce que ce pouvoir, justement, était trop éparpillé. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée?
Oui, ça c'est possible. Ça c'est possible parce qu'il y a aussi le domaine maritime qui s'occupe des ports et pas seulement l'administration publique. Donc il y a une parcellisation de compétences qui n'aide pas à agir concrètement. Donc ça c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas difficile de trouver un accord. Moi j'ai l'impression, comme tous les habitants de Venise, que les intérêts économiques liés au tourisme et au passage des grands navires qui payent pour payer dans le canal de la Giudecca de Venise, payent beaucoup d'argent, en réalité empêchent une action concrète, qu'on n'arrive pas pour des questions vraiment économiques. Je pourrais dire que si Venise était dans un autre pays européen, elle serait déjà sauvé depuis des années et que la politique italienne, on le sait, elle n'est pas trop, comment je peux dire, un peu myope dans certaines questions.
Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare, la dolce ossessione degli ultimi suoi giorni tristi, Venezia la vende ai turisti. E cercano in mezzo alla gente Europa o l'Oriente, che guardano alzarsi alla sera il fumo o la rabbia di Porto Marghera. Stefania era bella.
Merci beaucoup, Chiara Baratucci, d'avoir été avec nous par téléphone depuis Venise, où vous habitez. Je rappelle que vous êtes architecte, urbaniste et professeur à l'Université de Venise et enseignante à l'École Polytechnique de Milan. Un grand merci également à nos deux invités qui nous ont accompagnés durant cette heure, Jacques Ferrier et Lise Bourdeau-Lepage. On va mettre évidemment en lien sur la page de Culture Monde les références de vos ouvrages et autres articles. On poursuivra demain notre série consacrée à l'anthropocène, au virus de la dernière chance, et je me dis que nous allons peut-être très probablement même avoir l'occasion bientôt de reparler justement de ces villes, puisque les municipales approchent, ça sera une occasion. En tout cas, un grand merci à vous, Jacques Ferrier et Lise Bourdeau-Lepage. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.